Premier jour, après-none, où l'on visite le scriptorium et l'on fait connaissance de nombreux savants, copistes et rubricaires, ainsi que d'un vieillard aveugle qui attend l'Antéchrist.
Tandis que nous montions, je vis que mon maître observait les fenêtres qui donnaient de la lumière à l'escalier. J'étais probablement en train de devenir aussi habile que lui, car je me rendis aussitôt compte que leur disposition aurait difficilement permis à quelqu'un de les atteindre. Et d'autre part, les verrières qui s'ouvraient dans le réfectoire, les seules du premier étage à regarder la pique, ne paraissaient pas aisément accessibles, étant donné qu'en dessous, il n'y avait aucune espèce de meuble. Arrivés au sommet de l'escalier, nous entrâmes, par la tour orientale, dans le scriptorium. Et là, je ne pus retenir un cri d'admiration. Le deuxième étage n'était pas divisé en deux comme l'étage inférieur, et il s'offrait donc à mes yeux dans l'immensité de son espace. Les voûtes, aux voussures point trop hautes, moins que dans une église, plus toutefois que dans toute autre salle capitulaire quoconque ne vit, soutenues par de robustes pilastres, cernaient un espace inondé d'une très belle lumière. Car trois énormes verrières s'ouvraient sur chacun des plus grands côtés, tandis que cinq verrières plus petites perçaient chacun des cinq côtés extérieurs de chaque tour. Huit verrières, hautes et étroites, enfin, laissaient aussi pénétrer la lumière par le puits octogonal intérieur. L'abondance des fenêtres faisait en sorte que la grande salle était égayée par une lumière continue et diffuse, même en cet après-midi d'hiver. Le vitrage n'était pas coloré comme celui des églises, et les résilles de plomb assemblaient des carrés de verre incolores pour que la lumière entrât de la façon la plus pure, non modulée par l'art humain, et servit à son but qui était d'éclairer le travail de la lecture et de l'écriture. Bien d'autres fois, je vis, et en d'autres lieux, de nombreux scriptoriums, mais aucun où aussi lumineusement resplendit, dans les coulées de lumière physique qui faisaient rayonner l'atmosphère, le principe spirituel même que la lumière incarne, la claritas, source de toute beauté et sapience, attribut inséparable de cette proportion que la salle manifestait. Car trois choses concourent à créer la beauté. D'abord, l'intégrité ou perfection. Et de ce fait, nous estimons l'aide les choses incomplètes. Ensuite, la proportion requise, autrement dit l'harmonie. Enfin, la clarté et la lumière. Et nous appelons belle, en effet, les choses de couleur limpide. Et comme la vision du beau implique la paix, et pour notre appétit, c'est tout un que de se rasséréner dans la paix, dans le bien ou dans le beau, je me sentis envahi d'une immense consolation, et je pensais combien il devait être agréable de travailler dans ce lieu. Tel qu'il apparut à mes yeux, en cette heure méridienne, il me fit l'impression d'un joyeux atelier de la sapience. Par la suite, je vis à Saint-Gall un scriptorium de proportions identiques séparé de la bibliothèque, ailleurs dans d'autres abbayes les moines travaillaient dans le lieu même où étaient serrés les livres, mais pas aménagé avec autant de bonheur que celui-ci. Antiquari, librari, rubricaire et chercheur étaient assis chacun à sa propre table, une table sous chacune des verrières. Et comme les verrières étaient au nombre de 40, nombre vraiment parfait, dû au décuplement du quadragone, comme si les 10 commandements avaient été magnifiés par les 4 vertus cardinales, 40 moines auraient pu travailler à l'unisson, même si à ce moment précis ils étaient à peine une trentaine. Séverin nous expliqua que les moines qui travaillaient au scriptorium se voyaient dispensés des offices de tierce, sexte et nonne, pour ne pas devoir interrompre leurs tâches dans les heures de lumière et arrêter leurs activités seulement au coucher du soleil pour vêpres. Les places les plus lumineuses étaient réservées aux antiquari, les enlumineurs les plus experts, aux rubricaires et aux copistes. Chaque table avait tout ce qui pouvait servir à enluminer et à copier. Cornes à encre, plumes fines que certains moines affilaient à l'aide d'une lamelle de canif, pierres ponces pour rendre lisse le parchemin, règles pour tracer les lignes ou coucher l'écriture. À côté de chaque scribe, ou au sommet du plan incliné de chaque table, se trouvait un lutrin, où était posé le manuscrit à copier, la page recouverte de caches qui encadrait la ligne qu'on était en train de transcrire. Et certains avaient des encres d'or et d'autres couleurs. D'autres, au contraire, ne faisaient que lire des livres et transcrivaient des notes sur leur tablette ou carnet personnel. Je n'eus d'ailleurs pas le temps d'observer leur travail, car le bibliothécaire vint à notre rencontre, que nous savions être Malachi de Hildesheim. Son visage cherchait à prendre une expression de bienvenue, mais je ne pus m'empêcher de frémir face à une aussi singulière physionomie. Sa silhouette était élancée, et bien qu'extrêmement maigre, ses membres étaient forts et disgracieux. Comme il avançait à grande foulée, enveloppé dans la robe noire de l'ordre, il avait quelque chose d'inquiétant dans son aspect. Le capuchon encore rabattu, puisqu'il venait de l'extérieur, jetait une ombre sur la pâleur de sa face et donnait un je ne sais quoi de douloureux à ses grands yeux mélancoliques. Il y avait dans sa physionomie comme les traces de nombreuses passions que la volonté avait disciplinées mais qui paraissaient avoir fixé ces linéaments qu'elles avaient cessé d'animer. Tristesse et sévérité prédominaient dans les traits de son visage et ses yeux étaient si intenses qu'à un seul regard il pouvait pénétrer le cœur de celui qui parlait et lire ses pensées secrètes, si bien qu'on pouvait difficilement supporter leur investigation et qu'on était tenté de ne pas les rencontrer une seconde fois. Le bibliothécaire nous présenta à de nombreux moines qui étaient au travail à ce moment-là. De chacun d'eux, Malachi nous dit aussi la tâche qu'il accomplissait, et j'admirai la profonde dévotion de tous au savoir et à l'étude de la parole divine.